De Tristan Bernard, aux abois, journal d'un meurtrier. Mai. La chambre où j'écris est au troisième étage d'un hôtel du Havre. Elle donne sur un des bassins. Mais à quoi bon d'écrire ce que je vois? Ce n'est pas pour cela que j'ai pris la plume. J'écris pour moi tout seul. J'écris parce que je n'ai personne à qui parler, et comme je ne veux pas que ces pages traînent, je les enverrai sous des initiales dans un bureau de poste de Paris, toujours le même pour ne pas me tromper. Je me regarde dans la glace. Je ne suis ni beau, ni laid, ni grand, ni petit. J'ai 34 ans. Il y a des personnes qui me donneront moins, d'autres plus. Mais quand je dirai mon âge, elles n'insisteront pas, car cette évaluation ne leur tient pas à cœur. Mon nez paraît un peu pointu depuis que je ne porte plus que la moustache. J'ai des cheveux châtain clair, pas très dociles. Quand je me coiffe avec une raie, ça ne tient pas. J'ai un peu d'instruction, j'ai passé mon bachot. Au lycée, je n'ai pas fait sensation. Il y avait des professeurs qui me jugeaient intéressant, mais la plupart ne faisaient pas attention à moi. Je me suis mariée de bonne heure, à 24 ans, et j'ai divorcé il y a 3 ans. Ma femme me trompait. C'est moi qui ai pris les torts à mon compte. Ce n'était pas une mauvaise créature. Elle réfléchissait peu, voilà tout. Elle écoutait facilement les gens quand ils lui plaisaient. Moi, elle ne m'a pas écouté longtemps. Elle vit avec son amant, qui n'est pas non plus un mauvais type. Je sais qu'ils ne sont pas très heureux au point de vue matériel. Jusqu'à présent, je lui ai servi régulièrement sa pension. Maintenant, ça commence à être dur. J'ai eu beaucoup d'ennuis d'argent. J'étais assureur et j'avais une assez bonne clientèle, mais j'ai été obligé de la céder. J'ai des créanciers que je suis obligé de faire attendre. Ils attendront peut-être longtemps. Ce n'est pas qu'il soit facile, mais je ne suis pas très solvable. Ils le savent, et comme moi, ils sont forcés d'attendre des jours meilleurs. J'ai fini par supporter sans trop de peine ce passif. Mais je serais très malheureux si je ne pouvais pas envoyer d'argent à mon ancienne femme. L'homme qui avait négocié la cession de ma clientèle était un ancien clerc d'huissier. J'avais été mis en rapport avec lui par un camarade, un nommé Daubel. L'ancien clerc d'huissier s'appelait Sarbry. La première fois que je l'ai vu, il m'a déplu, et ça n'a pas changé. C'était un petit homme rondelé, mal rasé, déjà tout gris. Il avait de vilains yeux qui dansaient et un râtelier qui bougeait dans sa bouche tordue. Quel remue-ménage inutile sur cette vilaine figure! Il avait bien une gueule d'ennemi. Notre affaire se traita comme un combat haineux. Elle était bonne pour lui, mais il ne me sut aucun gré des avantages qu'il en tira. Il dut avoir de furieux regrets de ne pas m'en avoir pris assez. On ne s'était pas vu depuis 1 an, et je le rencontre à la terrasse d'un café près de la porte Saint-Denis. Il se trouve que j'avais un peu songé à lui quelques jours auparavant. J'avais absolument besoin de 3 000 francs. Je m'étais bien dit que c'était absurde de les lui demander, qu'il ne me les donnerait pas, car je n'avais rien de sérieux à lui offrir en garantie. Le matin même où je l'avais rencontré à ce café, j'avais vu Daubel, celui qui m'avait fait connaître le dit Sarbry. Il paraît que l'ancien clerc d'huissier était devenu terriblement serré depuis la crise. Il ne risquait plus ses fonds, et Daubel croyait savoir qu'il avait de côté chez lui des billets de banque en nombre. Je suis sûr qu'il en a beaucoup, car il a vendu l'autre jour des valeurs qui se trouvaient n'avoir pas trop baissé. Sur cette terrasse de café, Sarbry fit un effort pour être aimable et mit en train un sourire qui aboutit plus ou moins. Il me fit signe de m'asseoir et m'offrit une consommation. Je crus lui faire plaisir en la refusant. En cherchant bien, j'avais tout de même une modeste affaire à lui proposer. Pas une bonne affaire, c'est entendu. Un petit quelque chose sur quoi on pouvait chérer un peu. C'était une créance de 4 000 et des francs que je considérais comme perdus. Mais on peut se tromper. Je le répète, c'était surtout un prétexte pour reprendre mes relations avec lui. J'avais appris qu'il avait de l'argent. Je comptais sur la Providence pour me faire avoir un peu de ce numéraire. J'étais comme un homme qui s'approcherait d'une mine d'or, sans outils sur lui, sans permission de l'explorer, mais qui ne bougerait pas de là parce que l'or est à proximité. « Venez chez moi, nous serons mieux pour causer. » Il habitait tout à côté, rue Mellet, au 3e sur la cour, dans un petit appartement où il vivait seul. J'examinai l'étroite salle à manger et un bureau un peu plus grand, meublé de meubles disparates, qui sans doute provenaient de laisser pour compte, à la suite de diverses opérations de prêt. Je lui donnai quelques renseignements sur la créance que je voulais lui céder, et j'allai jusqu'à lui raconter que j'attendais une précision intéressante relative à ce créancier dont on allait m'indiquer la nouvelle adresse. Tout cela était mensonger. Je tenais avant tout à garder une nouvelle occasion de le revoir. Il me dit qu'il ne sortait jamais le soir et qu'on pouvait venir jusqu'à 10 heures. À 10 heures ? Le soir, dans ce petit appartement. Entendons-nous, je me sentais incapable d'un meurtre ou d'un vol. Toute ma vie, il m'avait semblé que c'était un pas impossible à franchir. Je n'avais jamais commis le moindre acte délictueux. J'allais dîner ce soir-là chez un marchand de vin du faubourg Saint-Martin. Tout en mangeant, je me répétais 10 fois que j'étais tout à fait incapable de tuer ou de voler. Il n'y avait point à tabler là-dessus. C'était une impossibilité absolue. Cette conscience de mon impuissance à devenir un malfaiteur me laissait tout le calme d'esprit pour imaginer un assassinat, qui se présentait vraiment dans des conditions favorables. D'abord, je n'avais pas de casier judiciaire. Personne dans ma maison, dans mon quartier, ne fournirait sur moi de renseignements fâcheux. Enfin, pas de complice, pas de bavardage à craindre. La chose une fois exécutée, je n'irais pas bêtement voir des filles qui me donneraient à la police. Je n'agirais pas comme ces criminels imbéciles, ces ingénus qui ne connaissent rien du monde. On les prend pour des malins tant qu'ils sont invisibles. Dès qu'ils ont quelques sous sur eux, ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils vont s'amuser comme des enfants. Passons aux moyens d'action. Les armes à feu font trop de bruit. L'idée de me servir d'un couteau me faisait mal au cœur. Je n'arriverais jamais à percer la peau d'un être vivant. Et puis, il faudrait acheter un couteau ou un warning. Et c'est là le bon moyen de se faire repérer. Les marchands d'armes, aussitôt qu'ils lisent le récit d'un crime, sont si contents de jouer un rôle en apportant un renseignement à l'instruction. À la rigueur, je serais capable de frapper avec un casse-tête. Tiens, un marteau. J'ai un marteau assez gros dans un tiroir. Il y a très longtemps que je l'ai acheté pour clouer des caisses la dernière fois que j'ai déménagé. Je vais rentrer chez moi. Et puis, je reviendrai ce soir rue Mellet, avec mon marteau dans ma poche. Je ferai cela simplement pour continuer l'histoire que j'ai imaginée dans ma tête. Serais-je capable, si j'avais vraiment l'idée de tuer quelqu'un, de prendre seulement le marteau et de l'emporter avec moi? Pourrais-je seulement franchir le seuil d'une maison où il y aurait quelqu'un à tuer? Garçon, l'addition. Vous ferez ajouter un petit verre d'eau de vie. Je me sens un peu mou. Je ne veux pas être mou. Et du restaurant à ma maison, je marche très vite. Mais c'est trop loin. Je prends un taxi. Ça n'a aucune importance pour me faire conduire chez moi. Quand j'irai rue Mellet, c'est une autre affaire. Pas de taxi, pas de chauffeur bavard. Je sais bien que ces précautions ne signifient rien, puisque je n'ai aucune intention. Mais le jeu, c'est d'agir comme si j'avais positivement une intention. Je me souviens que dans le taxi, je me sentais très animée et j'ai monté impatiemment mes 4 étages. Je n'ai pas trouvé tout de suite le marteau. J'ai cru qu'il était dans ce tiroir de commode. Ah, que je me suis sentie dépitée. Et puis voilà que dans ce petit cabinet où sont mes vêtements, en passant la main sur un rayon assez élevé où je pose mes chaussures, j'ai mis tout à coup la main sur ce marteau, sur ce bon marteau. Il n'est pas grand. Il est bien équilibré, solide. On a le manche bien en main, et le bois de ce manche est fortement assujetti. Il ne joue pas dans la tête de fonte d'acier. Oh, cette fonte, qu'elle est dure! La concierge est en train de bavarder sur la porte. Elle m'a vu rentrer. L'embêtant, c'est qu'elle va me voir sortir. J'attends un instant. Peut-être va-t-elle faire quelques pas dehors pour accompagner quelqu'un. Après tout, à quoi bon feindre de ne pas sortir de chez moi, puisqu'il faudra rentrer tout à l'heure et donner mon nom en rentrant. Je ne sais plus à quoi j'ai pensé pendant la route en gagnant la rue Mellet. C'est parti de ma tête. Je crois m'être dit un instant que je n'avais pas l'air d'un criminel, mais d'un homme comme les autres. Au fait, pourquoi aurais-je l'air d'un assassin, puisque tout cela c'est du chiquet? Je sais bien que je ne tuerai pas. Dans l'après-midi, quand j'étais venue là avec Sarbris, personne ne m'avait vu entrer, personne ne m'avait vu sortir. J'avais aperçu dans le fond de la loge un vieillard assis dans un fauteuil, un journal à la main. Il lisait, où il dormait. Quand j'entrais cette fois dans l'allée, la porte de la maison était encore ouverte. Je vis le même vieillard momifié, toujours au même endroit. Je traversai la cour et montai les 3 étages. En sonnant, j'ai eu l'impression, mais une seconde à peine, que ce n'était plus un jeu et qu'il allait vraiment se passer quelque chose. Mais quand il vint m'ouvrir, cette idée s'enfuit tout à fait. Allons, à quoi avais-je pensé? Je viens chez cet homme tout simplement pour lui raconter un boniment quelconque et pour qu'il consente à me donner 3 billets, garantis par cette créance de 4 400 francs. J'enverrai tout de suite à mon ancienne femme les 2 000 francs en retard. Je serai très soulagée et pendant quelque temps, je pourrai dormir tranquille. Il m'a fait entrer dans son cabinet et il m'a fait asseoir. Il s'est assis sur son fauteuil de bureau. Je lui parle de mon affaire sans penser à ce que je dis. Et j'ai intérieurement une envie de rire à l'idée de la comédie que je me suis jouée. Comme ça me ressemble d'avoir imaginé, même en blague, que je pourrais faire du mal à cet individu. Il m'avait fait entrer et asseoir sans aucune défiance. Mais devant cette confiance, il n'y a même pas de quoi m'attendrir, c'est si naturel. Nous sommes 2 bourgeois normaux, comme il y en a tant. Nous allons notre petit trentrant d'existence, et il n'a pas plus l'air d'une victime que moi d'un assassin. Ce que je vais raconter maintenant, je ne le dirai pas devant un tribunal, car personne ne me croirait. À un moment donné, il a quitté son fauteuil. Il a passé devant moi. Il est allé s'accroupir devant une commode pour ouvrir le tiroir du bas. Il cherchait, je crois, de quoi fumer. J'avais tout près de moi son crâne. J'ai tiré mon marteau de la poche et je lui ai donné un grand coup sur la tête. Je crois qu'il a tout de suite été assommé. J'ai entendu comme un reniflement très sourd. Personne n'a pu l'entendre que moi. Et puis, ce n'était pas un bruit trop anormal. Ce n'est qu'à ce moment-là que le crime a commencé. Il me semble que c'est bien consciemment que j'ai continué à taper avec le marteau. Alors, j'ai été vraiment un assassin. Je pensais qu'il était touché à mort, mais il avait encore des spasmes, des secousses. Il a fallu l'achever, taper, taper sur cette tête pour en chasser la vie. Les gens diront « La victime a été achevée avec une férocité abominable. » Mais ce n'est pas de la sauvagerie. C'est la précipitation éperdue d'un affolé qui fait une besogne odieuse avec la hâte frénétique d'en finir. Commençons les explorations. D'abord, j'ai eu l'idée que je ne trouverais rien. J'ai déplacé le corps, il avait ses clés dans une poche de son pantalon. Mais que de clés, que de clés! Lesquelles étaient les bonnes? Il fallait les essayer à toutes les serrures. Dans le bureau d'abord, sur 3 tiroirs fermés. Et puis dans sa chambre, sur l'armoire. Et dans cette armoire, encore d'autres tiroirs fermés. Jamais je n'y arriverais. Pourtant, j'avais tout mon temps. Je commençais mes recherches. Et soudain, une idée me sauta dans la tête. Je savais qu'il n'avait pas de domestique, une femme de ménage seulement, qui ne venait que le jour. Mais il m'avait dit qu'il ne sortait pas le soir. Les gens qui le connaissaient savaient cela. Si on allait sonner à la porte, ce coup de sonnette, qui maintenant me semblait imminent, allais-je l'entendre à la minute, à la seconde suivante? Non, il ne faut pas s'attarder ici. Je vais regarder dans les poches de son veston. Il a peut-être un portefeuille. Ça y est, un portefeuille bourré de billets. Plusieurs liasses. Il devait garder cela sur lui jusqu'au moment de se coucher, avant de le placer dans une cachette. Je prends ses billets, je les compterai chez moi. Je bute contre le marteau. Qu'est-ce que je vais en faire de ce marteau? Il ne peut rien révéler, il y a si longtemps que je l'ai acheté. C'est égal, il vaut mieux qu'on ne le trouve pas tout de suite. J'ouvre la porte de la chambre et je glisse le marteau sous le lit, le plus loin possible. Maintenant, il s'agissait de s'en aller, sans perdre une minute. Et cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder combien il y avait de liasses. 5, 6, 7 liasses de 10 000. 70 000 francs. Quelle curiosité de gosse! J'aurais pu attendre d'être chez moi. Avant de m'en aller, je fermais le bouton de l'électricité. Il était l'heure pour lui d'éteindre sa lumière. Il ne faut pas que le logement reste éclairé toute la nuit. Il vaut mieux n'attirer que le plus tard possible l'attention des voisins. J'ai tout éteint, puis j'ai ouvert la porte doucement et je suis sortie très droit pour n'avoir pas l'air d'un voleur si quelqu'un s'était trouvé dans l'escalier. Encore éclairé, l'escalier. Je traverse la cour, la porte d'entrée est fermée. J'ai demandé le cordon avec une de ces voix rudes qui n'ont aucune personnalité. C'est égal, on n'est plus à son aise dans la rue. Passant quelconque parmi tous ces passants anonymes, je gagne la rue Saint-Martin, puis le boulevard. Il vaut mieux ne pas m'arrêter dans un de ces cafés. Changeons de quartier. Changeons de quartier. Le tramway de Montrouge vient à point pour m'emmener dans les environs de Montparnasse. Mon argent est dans ma poche gauche. Il n'y a pas grand monde dans le tramway. Je me dirige vers une place de l'intérieur et tout à coup, il me semble que mon pantalon traîne d'un côté. Je fais sauter un bouton de bretelle. C'est grave. À quel moment l'ai-je fait sauter? Peut-être en assénant le coup de marteau. Le bouton porte-t-il la marque d'un tailleur? Il faudrait examiner de près un autre de mes boutons, mais ce n'est pas le moment. Il y a quelques personnes dans le tramway. Pas de geste singulier. Ah oui, c'est grave. En fouillant là-bas dans les papiers, les gens de police découvriront que nous avons eu des relations d'affaires. S'ils portent le bouton chez le tailleur retrouvera mon nom. On fera un rapprochement dangereux. J'eus un instant l'idée absurde de retourner là-bas à la recherche de ce bouton. Mais quelle difficulté! Quel danger! Comment peut-on concevoir des bêtises pareilles? Le tramway, heureusement, continue sa course comme pour m'éloigner de là et m'empêcher de faire cette idiotie. Les boutons où s'attachent mes bretelles sont à l'intérieur de la ceinture de pantalon. Seulement, le bouton qui manque peut avoir sauté en dehors et c'est même la grande probabilité. Je promenais ma main négligemment, comme pour me gratter, le long de ma jambe, et j'eus la joie de sentir, un peu plus haut que la chaussette, retenue par la jartelle, une petite saillie dure, ronde. Il y a du bon, c'est le bouton. Il s'est arrêté là, gentiment. Je descendis à la place d'enfer et me dirigeai vers un grand café du boulevard Montparnasse. J'avais soif et j'avais faim. Je commandai une bonne soupe au fromage, un bœuf à la mode froid et un demi pour commencer. Et tout à coup, je me rappelai que je n'avais pas emporté assez d'argent de chez moi pour payer ce petit souper. J'étais parti avec un peu de monnaie et j'avais laissé 3 billets dans ma commode, 300 francs qui me restaient. Je n'allais pas tirer de ma poche pour payer l'addition mes 70 billets de 1000. Je me rendis d'abord à la toilette et je détachai un de ces billets. Je profitai de l'occasion, étant bien enfermé, pour voir si chaque liasse était complète et si les 10 billets s'y trouvaient bien. Du café où j'étais, pour aller chez moi, il y avait 5 minutes à pied, mais j'avais trop d'argent pour m'aventurer dans ces rues un peu désertes. Il fallait mettre de côté, dès le lendemain, la plus grosse partie de cette fortune. 50 000, même 60 000. Je n'aimais pas avoir autant d'argent sur moi. Mais où les mettre, ces billets? Dans une banque, en me faisant ouvrir un compte? C'était bien imprudent. Et si j'étais soupçonné un jour, quelle coïncidence de date entre le dépôt et l'assassinat! Le mieux était de prendre un coffre. On met les billets dans une enveloppe et les employés de banque ne savent pas ce que vous avez caché. Je me souviens qu'une fois chez moi, après avoir placé mon argent dans le tiroir de la table de nuit, tout près de moi, je me suis endormi assez vite. Je me suis réveillé 2 heures après en me demandant ce qui s'était passé. Tout était un peu trouble dans ma tête. Et je me mis à pleurer, silencieusement, sans savoir pourquoi. C'était un être faible que j'avais en moi, et qui pleurait comme un enfant. Est-ce que je m'attendrissais sur le compte de Sarbris? Pas une minute je n'ai pensé à lui. Peut-être est-ce parce que je m'étais un peu attendue à ce qu'une pitié sournoise entrât dans mon cœur. Je m'étais mis malgré moi en garde contre cette compassion. Souvent, on se rend incapable d'éprouver des sentiments quand on les a trop escomptés. Je me réveillai au grand jour. Pourquoi me lever? Je n'avais rien à faire. Un moment, j'avais eu l'idée d'aller chercher des journaux. Mais certainement rien n'avait été découvert avant ce matin. Pour l'instant, moi seul étais au courant de la chose. Je savais avant tout le monde ce qu'il y aurait de sensationnel dans les premières éditions des journaux du soir. Comment ça s'est-il passé? La femme de ménage est arrivée vers les 8 heures à l'appartement de la rue Mellet. Elle a sonné, on n'a pas répondu. Elle a peut-être la clé. Je crois entendre son cri. Elle ameute les voisins, la concierge. Peut-être y aura-t-il quelque chose déjà dans le journal de midi. Je ne crois pas. Il s'imprime entre 9 et 10 heures. Ils ne sauront encore rien. Attendons la première édition des journaux du soir. Question importante. Vais-je rester à Paris? J'ai toujours entendu dire que Paris est l'endroit du monde où l'on se cache le mieux. Mais je ne crois pas que j'aurai la patience d'y rester. J'ai l'impression que je suis trop près de la police. Je sais où j'irai. J'irai au Havre. Pourquoi? Une idée. Ce n'est pas du tout que j'ai l'intention de partir pour l'Amérique, mais au Havre, je suis à côté de la sortie si je me sens obligée de partir tout à coup. Je sais bien que l'on s'emprisonne en partant sur un bateau et que les transatlantiques sont surveillés. Une fois là-dessus, quel énervement, pendant 6 jours interminables. Enfin, je n'ai pas dit que je m'embarquerais. Je verrai cela. En tout cas, je veux aller au Havre. Il faut tout de même se lever. J'aime mieux être habillée et prêt à sortir. Et puis tout à l'heure, il faut aller déjeuner. Depuis mon divorce, je prenais mes repas dans un petit restaurant du quartier. Je leur devais même de l'argent. Mais je n'allais pas les payer ce même jour. Pas si bête. Je ne paierai aucune dette ces jours-ci. J'enverrai seulement 2 000 francs à mon ancienne femme. Ça, j'y tiens. Décidément, j'attendrai aussi pour mettre mes billets dans un coffre. C'est embêtant de trimballer de l'argent sur soi, mais c'est encore ce qu'il y a de plus sûr. Les avait-il numérotés, ces billets? Oh, je ne pense pas. Jadis, il y avait des gens qui gardaient les numéros des billets. Aujourd'hui, ça ne se fait plus guère. La matinée a été horriblement longue. Je m'étais habillée en traînant le plus possible. Puis, j'étais allée au bureau de poste pour envoyer les 2 000 francs. J'avais mis 60 billets dans une enveloppe fermée, puis 5 000 francs dans une autre enveloppe, petite réserve destinée à être entamée bien avant la grande, à laquelle je ne toucherai qu'à la dernière extrémité. Les rares fois de ma vie où je m'étais trouvée nantie de sommes importantes, j'avais pris les mêmes précautions, et je continuais à y croire. Pourtant, elles n'avaient jamais retardé la moindre débâcle. Il y a des gens qui savent garder l'argent. Ceux-là n'ont pas besoin d'avoir recours à ces endiguements puérils. Comme je le pensais, il n'y avait rien dans le journal de midi. C'est curieux, je sens en moi une impression de tranquillité absolue. Et, la veille au soir, je m'étais dit que je n'aurais plus une seconde de paix. D'ordinaire, je prenais mon café à mon restaurant, et très vite. Ce jour-là, je sentis le besoin de le savourer longuement à la terrasse d'un grand café. J'en commandai même une autre tasse. Mais, réflexion faite, je ne la bus pas. J'avais peur de m'agiter un peu et de n'avoir plus le sang-froid qui m'était nécessaire. Faute de soucis matériels immédiats, je me sentais désœuvré. Où aller? 15 ans, 10 ans auparavant, j'avais été un habitué des courses. Mais il y avait longtemps que, faute d'argent, j'y avais renoncé et que j'en avais perdu le goût. Les jours précédents, j'avais fait des antichambres, à la recherche d'une situation. C'est une attente fastidieuse, parce que l'on est sans foi, sans espérance. Le patient ne s'impatiente pas parce qu'il sait trop ce qu'on va lui dire. On prendra note de son nom et de ses références. On lui dit encore « On vous écrira ». On ne vous écrit jamais. Le postulant le sait à peu près d'avance. Il n'est pas pressé de recevoir une réponse qu'il pressent évasive. On fait tout de même les démarches, car on ne croit plus à la légende de l'homme que la fortune vient trouver dans son lit. On sait trop que c'est là un bobard monstrueux, inventé par le prochain, qui vous pousse à l'inaction pour supprimer la concurrence. J'avais pris l'autobus pour aller au Grand Boulevard, non pas de ceux qui avoisinent la Porte Saint-Martin. Je la connaissais, cette remarque ressassée de criminaliste. L'assassin qui revient invinciblement sur le lieu de son crime. Ils ne mourront pas comme ça. À cet égard, au moins, je suis bien tranquille. Cette fameuse observation, ce n'est pas moi qui l'illustrerai d'un exemple nouveau. Je descendis au grand carrefour du boulevard Haussmann et de la rue Richelieu. Et c'est là que j'entendis crier la première d'un journal du soir. Je l'achetais en affectant de n'y mettre aucune précipitation. Précaution instinctive et imbécile. Le camelot était un peu trop pressé de se débarrasser de son papier pour scruter l'état d'âme des acheteurs. Je me pris à penser que si l'affaire qui m'intéressait prenait un grand retentissement, ces vendeurs de journaux devraient m'en être reconnaissants. Pour le moment, 15 lignes seulement en dernière heure, sous un titre pas trop gros, « Un assassinat rue Mellet ». Il était question, l'expression était inévitable, d'une macabre découverte. Mais le nom de la victime était mal orthographié, on l'appelait Sarbri au lieu de Sarebri. Cette erreur persistait dans d'autres feuilles. Seul le temps donne la bonne orthographe. Dans les éditions qui suivirent, les détails étaient plus circonstanciés. Il s'était aperçu tout de même que l'affaire offrait quelque intérêt. Ce n'était pas la femme de ménage qui avait découvert le corps, mais la concierge, qui, à son ordinaire, montait le lait dans l'appartement. Elle avait une clé à elle. la phrase fatale, un terrible spectacle s'offrit à ses yeux. Se retrouvait naturellement dans tous les articles. Un journal donnait de la victime un portrait rajeuni et pas du tout ressemblant. Qui sait, si elle avait eu ce visage-là, le marteau ne serait pas tombé si facilement sur sa tête. Un autre journal, encore un qu'il appelait Sarbris, publiait la photo du corps. J'aurais pu me dire à l'avance que j'en aurais une vilaine impression. Eh bien non. En réalité, cette image, d'ailleurs un peu confuse, me laissa complètement indifférent. Le même journal donnait aussi le portrait du commissaire qui avait fait les premières constatations. À l'intention du photographe, il avait largement ouvert les yeux et incliné la tête de côté en prenant son air le plus distingué. La journée n'avait pas été perdue pour tout le monde. On ne disait pas si on avait retrouvé mon marteau. Du reste, à l'heure où j'écris ces lignes, c'est-à-dire une semaine après l'affaire, ils n'ont pas encore mis la main dessus. Je n'avais pas du tout cherché une cachette compliquée. C'est presque au hasard que je l'avais envoyée sous le lit. Voilà qui tendrait à prouver que les perquisitions ne sont pas toujours aussi minutieuses qu'on se plaît à le croire. L'appartement est encore sous scellé. Personne ne l'habite. Il faudra attendre qu'il y vienne un locataire pour qu'on fasse un nettoyage sérieux. Alors, il est probable qu'on dénichera l'instrument en question. Ce marteau, en tout cas, m'a valu, 2 ou 3 jours après le meurtre, une certaine douleur. C'était le jour même où je quittais Paris. Mon concierge m'aidait à faire mes valises. Il me dit à brûle-pourpoint, « Vous n'avez pas trouvé votre marteau ?» Je sentis le rouge qui me montait au front. À ce moment, heureusement, j'avais le dos tourné, la tête penchée sur une des valises que j'étais en train de fermer. « Oui, » continua-t-il, « le marteau qui était dans un tiroir de la commode. Je m'étais permis de m'en servir pour clouer un piton dans ma loge. Et en le rapportant, je ne sais pas ce qui m'a pris, au lieu de le remettre en place, je l'avais posé, je ne sais pourquoi, dans le cabinet à habits, sur la planche aux chaussures. « Bon, bon, » fis-je, désireux de lui voir prendre un autre sujet de conversation. « Je l'ai trouvé. »« Oui, mais c'est qu'hier, il n'y était plus. » Je finis de peiner sur les courroies de la valise pour me donner le temps de la réflexion. Je l'avais trouvé là-haut et je l'avais mis par mégarde dans le tiroir de la commode qui ferme à clé. Voilà une petite histoire réglée. Ce concierge n'avait sans doute pas lu attentivement le drame de la rue Mellet. Les constatations établissaient que le crime avait été commis avec un marteau. Il n'y avait pas de chance pour que l'homme fît le rapprochement, même s'il avait suivi l'affaire. Mais ce qui m'avait inquiété surtout, c'est le trouble où m'avait jeté cette brusque remarque. « Oh, si je n'ai pas plus de présence d'esprit que cela, c'est grave. » Je prévoyais un autre passage dangereux, mais pour celui-là, j'étais sur mes gardes. C'était ma première entrevue avec Daubel, l'ami avec qui, la veille même du crime, j'avais parlé de Sarbris et qui m'avait révélé que le courtier avait chez lui beaucoup d'argent. J'avais connu ce Daubel chez des amis communs, aujourd'hui disparus de ma vie. C'était un employé de commerce, pas brillant, vraiment quelconque. Avait-il des soupçons? C'était bien improbable. Il appartenait à cette catégorie d'hommes, heureusement nombreuses, dont moi-même j'avais cru faire partie, et aux yeux de qui commettre un crime est une action monstrueuse et irréalisable. Voilà sur quoi il fallait compter, car je ne faisais pas grand fond sur son amitié. Une question se pose. Ne vaut-il pas mieux aller le voir moi-même d'abord? Il doit être étonné que je ne sois pas pressée d'échanger avec lui des réflexions sur le meurtre de Sarbris. Non. Non, une fois pour toutes. Dans la situation inquiétante où je me trouve, il ne faut pas aller au-devant des gens. je pensais à cette velléité absurde qui m'avait assaillie de remonter à l'appartement pour retrouver ce bouton de pantalon. Je sais bien que je n'aurais pas donné suite à cette idée imbécile, mais par principe, gardons-nous de vouloir prévenir les événements. On s'enferre soi-même avec de tels procédés. Parler le moins possible. Quand Dobell viendra me voir, et ça ne tardera pas, quelle sera mon attitude? Évidemment, j'aurais suivi l'affaire dans les journaux et j'en aurais été frappée. Tout de même, un peu agaçante, cette histoire de Dobell. C'est le point inquiétant, le point de fuite possible. J'ai hâte maintenant de le voir venir pour liquider cette affaire-là, pour être débarrassée de cette menace. Mais cette impatience, c'est encore un état d'esprit contre lequel il faut réagir. C'est de la faiblesse, c'est de la paresse. Il est venu. Je rentrais de déjeuner et je m'étais étendue sur mon lit. C'est étonnant ce que je me sens là depuis le soir en question. Je suis harassée de fatigue. On a sonné, c'est certainement lui. Oh, ce n'est pas un homme d'un esprit très subtil. Je me sens largement de taille à l'affronter. Nous nous sommes assis amicalement près de ma petite table, dite de travail, où je ne travaille d'ailleurs jamais. J'ai été prendre dans l'armoire un flacon de cognac. On boira. Pendant 2 ou 3 minutes, on a parlé de n'importe quoi, et sa timidité à aborder la question m'a inquiétée un peu. C'est à ce moment-là que j'ai pensé qu'il pouvait avoir un soupçon. Oh, un soupçon très fugitif, qu'il a dû tout de suite écarter. Enfin, il se décide, après un silence. « Eh bien, tu as vu cet assassinat de Sarbris ?»« Hein, crois-tu ?» Et j'ajoute, « Nous avions parlé de lui le jour même. » J'ai dit ça rapidement parce qu'il me semblait que c'était ce que je devais dire. Était-ce adroit ou était-ce maladroit? Puis la conversation est tombée. Dobell est un homme de peu d'imagination et pas très bavard. Et voici qu'il me pose une question qui me semble un peu insidieuse, sans que j'en fasse rien paraître. « Eh bien, t'en tires-tu un peu avec tes ennuis d'argent ?»« Ça ne va ni mieux ni plus mal. J'ai une petite chose en vue, j'espère que ça réussira. Un ancien client qui voudrait s'assurer sur la vie. » Quand il m'a dit quelques instants après « Je te quitte », je lui ai répondu mollement « Rien ne te presse », mais j'étais assez content de le voir partir. J'ai prévenu ma concierge que j'allais m'absenter quelques jours pour affaires et qu'elle garde mon courrier jusqu'au moment où je lui donnerai une adresse fixe. Au mois de mai, ce n'est pas le moment d'aller en villégiature à la mer. Mais il y a tout de même des quantités de gens qui s'absentent. Ça n'a rien de compromettant et ne veut pas dire qu'on a commis un crime. Les journaux ne parlent pas beaucoup de l'affaire Sarbris. Ça a duré 2 jours. On est fortement concurrencé par une traversée de l'Atlantique. Tout cela m'arrange mieux. Quand une affaire fait beaucoup de bruit, des quantités de gens font des hypothèses, jouent aux détectives amateurs. Il est évident que je serai appelé comme témoin un moment ou l'autre, parce qu'en fouillant dans les papiers de Sarbris, on verra que nous avons été en relation. Mais ils n'en sont pas encore là. Il est possible que les gens qui font l'instruction ne soient pas très allumés par cette affaire. Même les gens de police, qui devraient s'en occuper sans relâche, sont un peu détournés de leur métier par des préoccupations de famille ou par des parties de belote. Et puis, cette histoire ne fait pas énormément de bruit. Les limiers ne sentent pas autour d'eux assez de curiosité pour être stimulés dans leurs recherches. Ça s'est passé le 7 au soir. Le 10, j'ai pris un train de l'après-midi pour le Havre. Avant de m'embarquer, j'avais acheté, dans les environs de la gare Saint-Lazare, un pistolet automatique. J'avais toujours sur moi les 2 paquets de billets et j'avais peur d'être attaqué dans le train. Depuis 3 jours, le nombre des criminels possibles avait beaucoup augmenté à mes yeux. Dans un compartiment de seconde où j'étais installée, il y avait une dame, entre deux âges, entourée de paniers. Voisinage paisible. Quand le train quitta la gare, j'éprouvais une impression de bien-être. J'étais toujours fatiguée et j'allais pouvoir me reposer sans la moindre inquiétude pour ma subsistance. Mais le repos n'est pas éternel dans ce bas monde. Et puis, j'étais trop seule. Je n'avais à m'occuper que de moi. Je ne pensais pas à mon crime, ou plutôt je crois que je n'y pensais pas. L'image du bureau de Sarbris, à l'instant du coup de marteau, se présentait de temps en temps à mon esprit. Je n'en souffrais pas, et je ne m'imaginais pas qu'un jour cette obsession pût devenir douloureuse. J'avais peut-être des remords sans m'en douter, des remords bénins. Nous nous figurons que nous nous rendons compte de tous nos sentiments. J'étais montée une fois en biplan dans un camp d'aviation où l'on m'avait proposé un petit voyage circulaire. Je croyais n'avoir éprouvé aucune appréhension pendant cette tournée dans l'air. Or, après l'atterrissage, quand on me demanda de mettre ma signature sur le livre du camp, ma main tremblait tellement que je ne pus écrire. L'être fruste qui est en nous échappe parfois à notre contrôle. L'hôtel du Havre, où j'ai pris une petite chambre, est assez somptueux, mais les prix en cette saison sont modiques. Les deux premières journées ont été plutôt mornes. Je serais resté volontiers dans ma chambre le matin et l'après-midi, mais il fallait donner aux gens de l'hôtel l'impression que je voyageais pour affaires. En réalité, j'allais de café en café et je lisais des journaux. J'achetais 3 romans. J'en avais lu beaucoup jadis, mais depuis quelques années, je ne lisais plus. Et maintenant, mon attention n'était plus docile. Au bout de 10 pages, mes yeux ne suivaient plus les lignes. Ces soirs-ci, je suis allée au cinéma. J'ai pensé à plusieurs reprises à m'embarquer pour l'Amérique, pour mouvementer un peu ma vie. L'instruction n'est pas arrivée encore à un point inquiétant pour moi, si jamais elle y arrive. J'aurai toute chance de passer 6 jours tranquilles sur le bateau et de toucher le sol américain avant que l'attention de la police risque d'être alertée sur ma personne. Mais à ce moment-là, je me sentais envahie par une grande flemme et je me disais « plus tard, plus tard ». Cependant, je me procurais des renseignements sur les bateaux qui allaient partir et cette recherche eut l'avantage de m'occuper un peu. J'eus une autre petite distraction. J'étais agacée d'avoir sur moi cette grosse enveloppe de 60 billets. Il valait mieux louer un coffre, décidément. Au Havre ? À Rouen ? Oui, à Rouen. Si je pars pour l'Amérique et que j'emporte tout ou partie de cet argent, ce ne sera pas trop loin de retourner à Rouen pour ouvrir mon coffre. Tout ça ne rimait à rien. C'était de l'hésitation qui trahissait peut-être un énervement dont je n'avais pas conscience. En revenant de Rouen, j'entrai au cinéma et je revins à l'hôtel pour étudier avec le portier les heures de départ des bateaux. Or, voici que, comme j'étais en conférence avec lui à son comptoir, je vis entrer dans le hall un brave homme, rond, rasé, qui s'approcha du portier. Il demanda s'il n'y avait pas de lettre pour lui et prit sa clé. Le portier le laissa s'éloigner et me dit à demi-voix « Vous savez qui est cet homme ? C'est un type de la sûreté. » Il ajouta « Il est arrivé hier soir. Il cherche quelque chose en ce moment. Je ne sais pas quoi. » Tiens, ma vie reprenait son activité. Ils sont allés plus vite en besogne que je n'aurais cru. Au plus pressé, il y a une chose qui me gêne. Je montai dans ma chambre pour aller prendre un pardessus. Au moment où l'ascenseur démarrait, un voyageur fit un signe et monta avec moi dans la cage. Je reconnus l'inspecteur de la sûreté. J'habitais au 3e, lui aussi. Il s'arrêta au 212 J'étais au 219. J'achève en ce moment ce chapitre de ma confession. J'irai le porter tout à l'heure à la poste restante. P. J. L. Bureau 22, à Paris. Et il vaut mieux que ce papier révélateur ne reste pas dans ma chambre en cas d'incident. Un incident peut se produire. Vais-je dormir cette nuit ? 16 mai. Voici maintenant 9 jours que ça s'est passé. Il y a tous les matins et tous les soirs, dans divers journaux, une petite note sur l'assassinat de la rue Mellet. On dit que la police est sur la piste de l'assassin. Au début, cette information m'avait émue, mais je me suis dit que c'était une phrase de circonstance. Ce qui est arrivé ici m'a inquiété davantage. L'inspecteur de la sûreté, qui m'avait été signalé innocemment par le portier et qui habitait précisément à mon étage, m'a donné d'abord une alerte sérieuse. Je me disais bien qu'il n'était pas là forcément pour moi, seulement j'étais loin d'en être sûr. Il dînait au restaurant, pas précisément à une table voisine de la mienne, mais à celle d'à côté. Et comme la table qui nous séparait était vide, nos regards se croisaient parfois. J'ai mal dormi la nuit suivante. Un moment, j'ai eu l'intention de filer à la première heure. Mais, peut-être à la suggestion de ma paresse, je me suis dit que cette fuite me trahirait. Le lendemain, l'homme déjeunait toujours là. L'idée m'était d'abord venue d'aller prendre mon repas dans un restaurant du Havre, mais je ne sais quoi me retenait à l'hôtel. Nous mangions tous les deux en silence, sans nous regarder. Je me levai le premier pour aller prendre mon café dans le hall. J'ai eu une certaine émotion quand je l'ai vu sortir à son tour de la salle à manger, se diriger vers moi et m'appeler par mon nom. Pas une seconde je n'avais eu l'intention de faire de la résistance au cas d'une arrestation brusquée. À quoi bon ? Contre la police, contre la société, j'étais ridiculement le plus faible. « Je suis sûr, me dit-il, que vous ne me remettez pas. » Il ajouta, « Savournin. » Ce nom, en effet, me disait quelque chose. Il avait été mon sergent en 1918, au dépôt où j'avais été appelé vers la fin de la guerre. Savournin s'était mis en face de moi. « Qu'est-ce que vous êtes devenu ?» Et sans attendre ma réponse, il me dit à demi-voix, « Moi, j'appartiens à la police judiciaire. Je ne fais pas de mystère avec vous. J'ai été envoyé ici pour une affaire de vol de titre. Je suis venu parce que j'étais commandé, mais j'étais sûr de ne pincer personne. À mon avis, les clients sont déjà loin. Je pense que l'on va me laisser là encore 2 ou 3 jours. C'est une grande société de crédit qui a porté plainte. On tient à leur prouver que l'on fait tout ce que l'on peut. » Il me dit encore, « Je ne vous propose pas de sortir ensemble. On n'aime quelquefois pas se montrer avec nous. » Je protestais poliment. Il continua. « Je suis repéré, vous savez. C'est aussi pour ça que je vous ai dit ce que j'étais. Je savais bien qu'on vous l'apprendrait. Les gens du commissariat d'ici, ils sont tout heureux d'avoir de quoi causer et de dire à tout venant dans le tuyau de l'oreille « Vous savez, cet homme-là, il est de la sûreté. » Je m'arrangeais tout de même pour ne pas sortir avec Savournin. Je prétextais un travail dans ma chambre, un rapport à établir pour une affaire d'assurance. Il n'était pas forcé de savoir que je ne travaillais plus. Si je ne voulais pas me montrer avec lui, c'était un peu par scrupule. Si je savais qui il était, il ne savait pas, lui, ce que j'avais à ma charge. Alors je me disais que ça pourrait lui attirer des désagréments pour plus tard. Moi, je suis comme cela. Je n'aime pas cacher des choses aux gens qui s'abandonnent gentiment. Le fait d'avoir tué un homme n'avait pas changé mon caractère. Nous nous retrouvâmes, après le dîner, et nous allâmes, à la tombée de la nuit, faire un tour sur le port. La langue me démangeait. J'aurais voulu lui parler de la mort de Sarbris. mais je n'oubliais pas la résolution que j'avais prise de ne jamais engager le fer en cédant à une inquiète curiosité. Comment l'aiguiller vers cette affaire et arriver à ce qu'il m'en parle lui-même? Il lisait les journaux, que diable! Les crimes devaient l'intéresser, c'était sa partie. Au fait, peut-être que ces histoires-là ne l'excitaient plus. Je découvris une petite voie qui me mènerait sans doute dans la bonne direction. « Vous devez être mêlé par profession à des affaires passionnantes !» Il haussa les épaules. « Bien rarement. » Silence. « Ah, tant pis, il fallait y venir. Je lisais tout à l'heure dans un journal l'histoire de cet homme qu'on a trouvé assassiné dans son bureau, rue Mellet, je crois. Oui, oui, j'ai lu ça. C'est un copain à moi qui s'en occupe. J'ai dîné avec lui il y a 3 jours. Il m'en a causé. » Il se tut à nouveau. Décidément, mon affaire ne l'intéressait pas. Un instant, je fus repris d'une petite crainte. Peut-être me mentait-il? M'avait-il joué la comédie? Et n'était-il au Havre qu'en mon honneur? Il était venu pour me faire parler. Il me laissait m'engager. Allons, allons, mais quelle bêtise vais-je laisser pousser dans ma tête? Si je bats la campagne aussi follement, je suis perdue. Je ne vaudrai plus rien dans cette lutte contre la police. Il faut me dire une fois pour toutes que, pour le moment du moins, je suis invisible, sous la bonne protection d'une nuit opaque. Ma crainte était vraiment stupide, car le voilà qui gentiment revient sur mon sujet. S'il a gardé un instant le silence, ce n'est pas du tout par tactique, mais plutôt tout simplement parce que ce crime ne le passionnait pas et qu'il ne pouvait supposer que j'y attachais beaucoup plus d'intérêt et que j'attendais ses paroles avec une anxieuse impatience. « Mon copain ne pense pas que le coup ait été fait par un professionnel. L'assassin a dû se contenter de ce qu'il avait trouvé sur le bonhomme. Aucune serrure n'a été fracturée. D'autre part, rien à la porte d'entrée. Il est entré dans l'appartement tranquillement, comme vous et moi. Le type a dû lui ouvrir lui-même, et d'après la place des sièges dans le bureau, il l'a fait asseoir. Il se connaissait. Ça ne devait pas être quelque chose de bien reluisant, ni l'un ni l'autre. Le dénommé Salbris. J'allais rectifier le nom, je m'arrêtais à temps. Le type en question n'avait pas une bonne cote dans le quartier et devait pratiquer un business un peu douteux. Il a de la correspondance chez lui. On verra facilement avec qui il était en relation. Évidemment, pensais-je, c'est de cette façon-là que je serai repéré. On va se présenter chez moi et le concierge dira que je suis parti sans laisser d'adresse. Il faut que j'écrive au concierge. Mais quoi? J'ai trouvé. Je vais lui écrire dès demain qu'il continue à garder mon courrier sans le faire suivre, car je suis à la poursuite d'un client, voyageur de commerce, qui me doit de l'argent. J'ajouterai, ça c'est très bien, que je compte rentrer à Paris d'un instant à l'autre. Ceci se passait dans ma tête, que j'inclinais docilement pour faire croire à Savournin que je l'écoutais, pendant qu'il racontait des souvenirs de caserne. Il avait lâché l'affaire de la rue Mellet. J'étais assez content maintenant qu'elle le préoccupât aussi peu. Nous étions installés depuis un instant à la terrasse d'un petit café. « Oui, » dit-il tout à coup. « Ils vont dresser la petite liste des personnes avec qui il était en rapport d'affaires et l'on enquêtera sur chacune d'elles. » « Bon, voilà qu'il y repense. » Mais il aperçoit 2 vieux bonshommes sur un banc et se livre à des considérations sur les retraites aux anciens fonctionnaires. Il laisse à nouveau tomber le sujet qui m'occupe. Mais moi, je ne peux plus difficilement m'en séparer. Soudain, une idée, comme un élancement, vient me faire souffrir. Savournin a parlé des relations d'affaires de Salbris. Or, plus tard, quand son collègue aura découvert mon nom dans les papiers de la victime, et si, comme il est probable, je suis convoqué à l'instruction, Savournin se dira Tiens, il le connaissait ? Pourquoi, lorsque nous avons parlé de l'affaire, ne m'a-t-il pas dit qu'il le connaissait ? Comment parer à cela ? Je pourrais dire peut-être, mais au fait, je le connaissais, ce Sarrebri. Ça semblerait bien suspect. Et puis, dans ce cas, même s'il ne s'étonne pas de cette révélation tardive, il va m'interroger avec curiosité, écrire à son collègue ou lui téléphoner. Comment parer à cela ? En tout cas, ne rien dire ce soir. Nous allons nous quitter pour nous coucher. Je vais réfléchir. Ah, quelle sale nuit je vais passer. Tandis que si je parlais tout de suite... Allons, allons, un peu d'énergie. Ne risquons pas de faire une grosse bêtise pour éviter les fatigues de l'indécision. Peut-être vaut-il mieux ne rien lui dire. Il ne se souviendra sans doute pas de notre conversation. Mais si, il s'en souviendra. Il s'en souviendra certainement. Quand il reverra son copain, l'autre lui racontera que mon nom figure parmi ceux des relations de Sarrebri. Et il se demandera « Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ?» Je lui en parlerai demain. Je lui dirai que j'ai repensé à cette affaire de la rue Mellet et que tout à coup je me suis dit « Mais je le connais, ce Sarrebri !» Décidément, c'est mieux. Je lui en parlerai dès demain matin, sans précipitation. Je le verrai à l'heure du déjeuner. 17 mai, 4 heures. Il n'était pas au restaurant. J'ai demandé négligemment au portier « Monsieur Savournin ?»« C'est l'inspecteur de la sûreté. Il est reparti à Paris, monsieur. Il a été rappelé par dépêche. »« Pourquoi l'a-t-on rappelé ?» Oh, non, tout de même, de quoi vais-je m'occuper là? Il a été rappelé pour une raison ou pour une autre. Je ne vais tout de même pas rapporter à mon histoire tout ce qui se passe autour de moi. L'ennuyeux est que je n'ai pas pu lui dire ce que j'avais décidé. Si son copain lui parle de l'affaire... Ah, tant pis, il ne lui en parlera peut-être pas. 17 mai, 9 heures. J'étais un peu obsédée par cette histoire de Savournin. Ah, comme je regrette de m'être tourmentée pour ces lubies. Qu'est-ce que je viens de recevoir sur la tête? J'en suis encore tout étourdie. J'étais allée jusqu'à la gare pour prendre les journaux du soir. Ils portaient en manchette cette nouvelle « Le crime de la rue Mellet, arrestation de l'assassin ». Je copie. Depuis un ou deux jours, les inspecteurs de la sûreté chargés de cette affaire suivaient avec la plus grande discrétion une piste qui leur semblait intéressante. Ils ne se trompaient pas. L'examen des papiers de la victime avait permis de dresser la liste de ses relations. On avait pu déterminer parmi ces personnes celles qui étaient le plus au courant des habitudes de Sarrebri. Et hier soir, les inspecteurs Jacquinet et Blamard arrêtait à son domicile le nommé Daubel, employé de banque. D'après deux témoignages, Daubel savait que Sarrebri gardait chez lui un certain nombre de billets de 1000. Tout porte à croire que l'on est en présence, en dépit de ses dénégations, du meurtrier de Sarrebri. Si l'on m'avait dit un jour « Vous commettrez un crime et un ami sera arrêté à votre place », j'aurais, je crois, imaginé que cette situation me bouleverserait, m'attristerait jusqu'au fond de l'âme. Et ce n'est pas de la tristesse que je ressens aujourd'hui. Je suis assommée comme s'il m'était tombé une pierre sur la tête. J'éprouve une sensation confuse. Ce qui arrive à Daubel ne m'émeut pas. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai toujours manqué d'affection véritable pour ce compagnon d'esprit médiocre. Mais malgré moi, je ne peux voir dans ce fait nouveau que le danger obscur qu'il comporte pour moi. Daubel finira bien par se disculper. Je ne pense pas qu'il ait l'idée de parler de moi pour m'accuser, mais il me nommera peut-être parmi les amis qui peuvent témoigner de sa moralité. On enverra quelqu'un chez moi. J'ai expliqué au concierge pourquoi je ne lui donnais pas d'adresse fixe, mais cette explication ne tiendra pas éternellement. j'avais pris la décision de ne pas prendre de soporifique pour dormir, crainte de m'y habituer. Mais je prendrai tout de même un cachet ce soir, car il est important, essentiel, que je me repose. J'ai besoin de toute la solidité de mon esprit.